Notre thème est l'enseignement et l'apprentissage de l'évangile de Jésus-Christ des cinq derniers jours, en classe et au foyer. Nous, dirigeants, instructeurs, missionnaires et parents, avons tous reçu du Seigneur la tâche d'enseigner et d'apprendre pendant toute notre vie la doctrine de l'évangile telle qu'elle nous a été révélée. Nous commencerons par une courte conversation entre frère Tom Perry et moi à propos des principes qui sont à la base d'un bon enseignement. J'ai pour tâche de parler de quelques expériences personnelles qui m'ont beaucoup instruit sur l'enseignement et l'apprentissage. Si vous regardez, écoutez attentivement, vous remarquerez que pour être un bon instructeur, il faut être aussi un élève bien disposé. Notre conversation sera suivie d'une interview et d'une intervention de Jeffrey Holland qui nous apprendra à nous préparer à enseigner. Il ira ensuite dans une classe d'élèves pour donner un exemple d'enseignement en classe. Chaque membre du Collège des 12 apôtres aurait pu faire efficacement cette démonstration. La méthode de chacun aurait été différente de celle des autres. Il n'y en a pas qu'une qui fonctionne pour tous les instructeurs ou dans tous les cas. L'Esprit est essentiel pour nous guider, pour utiliser notre préparation, notre expérience, notre personnalité, notre connaissance et notre témoignage personnel dans chaque situation particulière. Après les paroles de Frère Holland, nous ferons une courte pause de 5 minutes.
Président, vous avez écrit un livre intitulé « Teach Diligently ». Pour tous les appels dans l'Église, il faut être un instructeur efficace. C'est notre appel le plus important. Pouvons-nous parler quelques minutes de l'enseignement diligent que nous devons dispenser dans nos différents appels dans l'Église?
J'ai été nommé superviseur du séminaire et je ne savais rien. Mais j'étais nommé, puis employé, et payé, plus ou moins, pour aller dans l'église dire aux instructeurs de séminaire comment enseigner, et ce qu'ils ne faisaient pas bien. C'était très embarrassant, parce qu'il fallait aller dans une classe, voir l'instructeur faire quelque chose, et le corriger, alors que je savais que je faisais la même chose que lui chaque fois que j'enseignais. Et j'avais appris quelque chose à ce sujet. Et Frère Lee et Frère Romney enseignaient tout le temps. Ils faisaient l'effort, dans un certain sens, de me parler ou de m'instruire. Ils faisaient beaucoup d'efforts. Je crois que la raison pour laquelle ils le faisaient, car je ne suis pas sûr qu'ils auraient jamais pensé que j'aurais l'appel actuel, c'est parce que j'avais une qualité. Je voulais apprendre. Et le remarque ne me dérangeait pas. Et si cela ne vous dérange pas, si vous voulez apprendre, le Seigneur vous instruira. Vous enseignera parfois des choses que vous ne pensiez pas vraiment vouloir savoir. Ces deux grands enseignants m'instruisaient. Quand je voyais Frère Romney, parfois il me disait, « Mon garçon, je vais vous dire quelque chose. » Je savais ce qui m'attendait. Il allait me dire ce que je faisais et ce qu'il ne fallait pas, et je remerciais toujours. J'ai appris de bonne heure qu'il est très utile d'écouter l'expérience des gens plus âgés. Un de mes présidents de pieux a dit un jour, je me suis toujours efforcé d'être en présence de personnes de valeur. Il habitait dans une petite ville d'Idaho, mais il a dit, si un conférencier venait ou s'il y avait quelque chose de particulier, j'essayais toujours d'y aller parce que je pourrais apprendre. Et j'ai toujours voulu fréquenter des personnes plus âgées. Maintenant, j'en suis une moi-même. Je me souviens que dans le Collège des 12, le grand Richards ne marchait pas aussi vite que les autres frères. Je l'attendais toujours pour lui ouvrir la porte et retourner au bâtiment avec lui. Un jour, un des frères m'a dit, « C'est vraiment gentil de vous occuper de Frère Richards. » Je me suis dit, « Vous ne connaissez pas mon but égoïste. » Parce qu'en revenant, je l'écoutais. Je savais qu'il se souvenait de Wilford Woodruff. Il parlait de lui. L'enseignement en tête-à-tête a une grande force. Généralement, l'enseignement en tête-à-tête est ce qui se produit quand on s'est corrigé. Voici un autre principe d'enseignement. Levez-vous tôt. La partie agréable ou la partie difficile, par contre, c'est de se mettre au lit. puis de réfléchir le matin quand on a l'esprit clair. C'est à ce moment que viennent les idées pour enseigner. Je ne sais pas à quelle fréquence, ce n'est pas depuis hier, il m'arrive d'avoir une tâche et ne pas savoir ce qu'il faut faire. Ça m'est arrivé dans une réunion d'autorité générale. Je savais que j'allais parler en premier et je me demandais ce que j'allais dire. J'étais confiant que ça allait venir. Et c'est venu. Vous étiez là.
Est-il important d'utiliser les Écritures quand vous enseignez?
J'ai toujours appuyé sur les Écritures. Le meilleur exemple d'enseignement et de la manière d'enseigner, le meilleur modèle de méthode d'enseignement, mis à part le sujet, qui est l'Évangile, est le Seigneur et son enseignement. C'est pour cela que je n'aime pas aller à la chaire ou me tenir devant une classe sans avoir mes Écritures à la main. Je les ai aujourd'hui pour pouvoir répondre à toutes vos questions.
Président, vous avez toujours ces Écritures avec vous. Chaque fois que je me suis trouvé avec vous, vous aviez ces Écritures. Un jour, vous nous avez raconté qu'elles ont été mouillées et que cela leur a fait du bien parce que vous pouvez trouver les pages plus rapidement. Comment utilisez-vous ces Écritures pour enseigner?
Oui, j'étudiais dehors sur la pelouse. On m'a appelé et j'ai laissé mes Écritures ouvertes sur la petite table. Je les ai oubliées, comme cela arrive aux personnes âgées. Et l'arrosage s'est mis en route. Je suis sorti le matin en me disant, mes Écritures que j'annote depuis 50 ans sont perdues. Je me suis aperçu que ça n'avait fait qu'assouplir les pages. Je crois que si je devais acheter de nouvelles Écritures, je les mettrais sous la pluie avant de commencer à les utiliser.
Les gens nous parlent toujours des Écritures et certains de la difficulté à les étudier. Comment arrivez-vous à leur donner vie dans votre enseignement?
En les étudiant, lisant continuellement. Si vous lisez le livre de Mormon, par exemple, je me souviens quand j'ai décidé que j'allais lire le livre de Mormon. J'étais adolescent, je l'ai ouvert, et j'ai lu « Moi, Néphi, étant de mon parent », et j'ai continué de lire les chapitres, et j'apprenais. C'était intéressant. Je me suis tenu jusqu'à ce que j'arrive au chapitre d'Ésaïe et au langage des prophètes de l'Ancien Testament. Quelques mois plus tard, j'ai décidé à nouveau de lire le livre de Mormon. Moi, Néphi, étant né de mon parent, mais chaque fois je me heurtais à l'obstacle de ces chapitres d'Ésaïe. Et je me demandais pourquoi ils étaient là. Finalement, j'ai décidé de les lire. Donc, quand j'étais adolescent, j'ai dû regarder les mots. Je ne les comprenais pas, mais je pouvais tourner les pages et avancer. Quand on arrive à Alma, on est sorti d'affaire. Il faut donc être déterminé à lire ce chapitre. Pas seulement y glaner quelques idées, ici et là, mais les lire d'un bout à l'autre. Le livre de Mormon, le Nouveau Testament, les doctrines et alliances, la perle de grand prix. Et pendant des années, j'ai pris l'habitude de lire les Écritures chaque été, quand nous avions un peu de temps, pour me rafraîchir la mémoire.
Quel conseil donneriez-vous aux nouveaux convertis avant leur premier appel d'instructeur?
Je leur dirais qu'ils peuvent réussir. Tout le monde peut enseigner. Je leur commanderais de prier pour avoir le don de l'enseignement. Vous savez, le livre de Mormon parle de dons et souligne plusieurs dons. Entre autres, celui d'enseigner l'Évangile selon l'Esprit. Quand j'ai lu cela il y a des années, je me suis dit, c'est un don que je veux, être capable d'enseigner selon l'Esprit. J'ai trouvé dans les Écritures qu'il faut le demander. Demandez et vous recevrez. Alors je dirais à quelqu'un de demander continuellement, et s'il cherche, il trouvera. Et le don se mérite, mais on peut le recevoir.
Que doivent faire les instructeurs pour s'assurer d'avoir l'esprit dans leur enseignement?
Il faut mener une vie digne. Il faut demander de l'aide. Et vous pouvez demander de l'aide si vous êtes parent le mari et la femme peuvent se parler. Et puis, il faut respecter les commandements et prier constamment, sans cesse, pour avoir la capacité et l'inspiration de savoir quoi faire et quand le faire. Et le Seigneur ne vous abandonnera pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Tout ce que tu demanderas avec foi, croyant que tu le recevras, te sera donné. Puis une écriture ajoute une idée, si c'est bon pour toi. L'Évangile a un côté très pratique. Peut-être êtes-vous une personne âgée qui pense que son ministère est terminé, ou une personne jeune qui a peur de tout, ou une mère de famille très occupée par ses enfants, ou une père préoccupé. Mais vous pouvez enseigner, vous pouvez prier, et vous pouvez être guidé. Et vous y arriverez. Le Seigneur vous bénira. Je peux vous le promettre. Quand le Seigneur enseignait, il parlait toujours de choses que les gens connaissaient. Par exemple, le royaume des cieux est semblable à un filet. Il n'est pas réellement un filet. Il est seulement semblable à un filet. Puis, le Seigneur explique pourquoi. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a raconté la parabole du semeur, c'était quelque chose à quoi les gens pouvaient se reporter. Il n'est pas seulement possible, mais assez probable, qu'un mois après qu'il ait raconté la parabole du semeur, et a parlé des graines tombées sur un terrain aride et sur un terrain fertile, l'une des personnes qui avait écouté est semée et voyant les graines dans sa main est revécue cette leçon. Si vous utilisez des paraboles, des histoires, des illustrations, elles vivent après la classe. Et la méthode du maître était remarquablement simple. Il était parfois assez sévère, mais il était toujours à leur niveau. C'est un appel sacré, un appel saint. Ce que je pense que je leur dirais aux instructeurs, c'est qu'ils n'enseignent jamais seuls. Ils n'ont jamais à être seuls. Le Seigneur l'a promis dans les Écritures. Nous parlons des Écritures. Nous lisons dans Alma que le Seigneur accorde des instructeurs à toutes les nations, dans toutes les langues. Et il a déclaré « Enseignez diligemment, et ma grâce vous accompagnera. » Je ne sais pas comment enseigner l'Évangile sans prier constamment. Vous pouvez prier en parole, mais aussi en pensée. Il m'arrivait souvent, quand j'instruisais un groupe ou une classe, pas vous évidemment, de prier intérieurement. Comment le faire comprendre? Je ne sais pas comment le faire autrement qu'en ayant ce pouvoir à ma disposition.
L'enseignement est au centre de toutes les activités de l'Église. Qui a la responsabilité de se préparer à enseigner?
Tout le monde est instructeur, les dirigeants, ceux qui suivent, les conseillers, les parents. Nous avons tous la responsabilité personnelle d'enseigner, d'apprendre les principes de l'Évangile. Le Seigneur établit son Église pour que nous fassions tous tout dans l'Église. Nous lisons dans les doctrines des alliances que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde. Comme nous sommes bénis d'avoir une prêtrise non rémunérée, afin que tous les frères puissent détenir la prêtrise, que toutes les sœurs puissent avoir des appels, que nous puissions tous être parents. Donc l'enseignement est au centre de tout ce que nous faisons.
Quelle est la différence, puisque vous avez mentionné l'enseignement au foyer, quelle est la différence entre enseigner dans l'Église et enseigner au foyer? Y a-t-il une grande différence?
Au foyer, c'est plus intime, mieux, plus facile, moins formel. Et les parents peuvent montrer. Les parents enseignent aussi des choses un peu douloureuses pour les enfants, qui demandent pourquoi, et auxquelles on peut répondre que parce qu'on ne sait pas pourquoi. On sait juste que ce n'est pas la chose à faire. Et il faut leur enseigner l'obéissance pour qu'ils sachent et comprennent. Et au foyer, il y a ce puissant lien d'amour entre les parents et l'enfant qui fait qu'on n'abandonne pas tant que l'enseignement n'est pas passé.
Président, comment faites-vous passer l'esprit dans la classe de l'instructeur aux élèves de manière à ce que cela soit une expérience utile pour eux?
Premièrement, ils doivent savoir que vous les aimez, que vous voulez les instruire. Et puis, il faut communiquer à leur niveau. On peut flotter au-dessus d'eux et même dans l'Évangile, en abordant des sujets avec lesquels ils n'ont pas de lien. Ce n'est pas ce qu'a fait le Seigneur. Le Seigneur les accompagnait et leur parlait dans la vie quotidienne. Et ses enseignements étaient toujours à ce niveau. Si vous avez quelque chose à enseigner, ils sont vraiment désireux d'apprendre. Même les adolescents, particulièrement les adolescents, veulent apprendre. Ils ont soif d'apprendre. Beaucoup d'instructeurs pensent qu'ils doivent être préparés au mot près. Oui et non. Cette préparation doit laisser la leçon suffisamment souple pour faire participer les élèves, pour leur faire poser des questions et les faire participer. Vous devez laisser un peu de place à l'inspiration afin que le Saint-Esprit puisse stimuler notre mémoire. Si nous devons enseigner quelque chose de difficile, si nous réfléchissons à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, il y a toujours une petite expérience personnelle, un endroit où nous sommes allés ou quelque chose que nous avons vu, que nous pouvons utiliser dans la leçon. Et les Écritures font partie de tout cela. Ce n'est pas simplement un livre qu'on lit de temps en temps pour connaître les règles de l'Église. Une bonne partie de l'enseignement qui est fait dans l'Église l'est de manière très rigide. Ce sont des exposés. Nous ne réagissons pas très bien aux exposés dans les classes. Nous faisons la réunion de Sainte-Cène, aux conférences. Il y a alors un prédicateur, c'est un sermon. Mais l'enseignement peut être à double sens. Vous pouvez donc poser des questions. Vous pouvez facilement susciter des questions dans une classe. Supposons que vous enseigniez le martyr de Joseph Smith, le prophète. Vous êtes instructeur d'histoire de l'Église. Vous avez tout étudié et vous savez que cela s'est passé le 27 juin 1944 à 17h à la prison de Carthage où le prophète a été abattu. Si vous demandez à quelle heure, où, etc., le prophète a été tué, aucun élève ne saura. Vous ne le saviez pas avant d'avoir lu le manuel. Et vous pouvez dire, qu'est-ce qui l'a amené à cela? À votre avis, qu'est-ce qui l'a amené à cela? Dès que vous demandez à votre avis, ils ont quelque chose à dire. Ils peuvent participer. Même les élèves qui sont plus au fond, qui sont plus en retard, ont quelque chose à dire. Il y a donc un moyen d'utiliser des questions, de diriger et gérer la classe. Soyez sensible aux questions. N'hésitez pas à poser des questions dans une classe. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous ne possédez pas, ni revenir d'un endroit où vous n'êtes pas allé. Donc, vous devez avoir l'esprit.